veux monter ton entreprise? C'est possible. Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM est là pour t'aider à réussir. Tu veux monter ton entreprise? C'est possible. Le Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM est là pour t'aider à réussir. Nous t'offrons gratuitement des services conseils personnalisés, de l'information en ligne, l'émission Tendance Entreprendre sur shop.ca et des concours qui te feront gagner des bourses et des prix en entrepreneuriat. Cette année, on te propose aussi de visionner nos vidéoconférences et de participer à nos événements de réseautage et d'apprentissage du monde de l'entrepreneuriat. N'hésite plus, il est temps de passer à l'action. Viens nous voir au Centre d'entrepreneuriat ESG UQAM et prépare-toi à créer ton entreprise.
Du 5 au 7 septembre, ça se passe au OOMPH. Le jeudi 5 septembre, on célèbre le retour à l'UQAM dans une prog 100% présentée par Choc. Claudia Bouvette, Vandou, Kiroak et Kodak Ludo, OGB et bien plus encore. Un line-up 100% gratuit qui te fera sortir de chez vous pour t'installer sur la rue Saint-Denis. Viens tester le chilling spot par excellence, le block party et arrête-toi quelques minutes devant le mix bus présenté par la coop UQAM. Du 5 au 7 septembre, les artistes les plus fresh en ville sont au OOMPH. La prog complète se trouve sur oomph.ca.
Du 6 au 8 septembre, le Festival des arts de Ruelle sera dans Rosemont, la petite patrie. Festival ultra multidisciplinaire avec plus de 150 artistes en musique, cirque, théâtre, danse et plus encore. Viens faire la fête dans Ruelle avec Bleu Jeans Bleu, Alpha Rococo, Bourbon, Maxime Auguste puis plein de belles autres personnes. Toutes les infos à festivalphare.com.
J'ai beau avoir du poil au cul.
MR63 est de retour cette année pour tout l'été. Venez profiter de spectacles intimistes dans des wagons du métro de Montréal jusqu'au 15 septembre prochain. Tous les samedis 20h, retrouvez une foule de talents locaux comme Mélanie Venditti, Du, Bourbon, Lille, Sarah Pagé, Nao et Tambour. Plus d'infos au mr63.ca.
Hi, this is Ty Siegel, and you're listening to CHOQ in Montreal.
Du 5 au 7 septembre, ça se passe au OOMPH. Le jeudi 5 septembre, on célèbre le retour à l'UQAM dans une prog 100% présentée par Choc. Claudia Bouvette, Vandou, Kiroak et Kodak Ludo, OGB et bien plus encore. Un line-up 100% gratuit qui te fera sortir de chez vous pour t'installer sur la rue Saint-Denis. Viens tester le chilling spot par excellence, le block party et arrête-toi quelques minutes devant le mix bus présenté par la coop UQAM. Du 5 au 7 septembre, les artistes les plus fresh en ville sont au OOMPH. La prog complète se trouve sur oomph.ca.
Brancher les écouteurs. Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock sur les ondes de choc.ca. Oui, c'est un 6 au 8 de 9 avec choc.ca. Excusez, on essaye, hein?
Oh oui, ça va bien.
Là. Merci. J'apprécie le support, j'apprécie le soutien.
Thumbs up.
Un thumbs up radiophonique, c'est toujours winner. Mon nom est Jean-Michel Berthiaume et je jongle difficilement avec cette introduction, mais on peut sauver, ça se sauve, ce genre de situation qu'on est capable de reconstituer malgré qu'on a échappé le casse-tête par terre. Donc les pièces sont les suivantes. Bienvenue à l'épisode 202. Aujourd'hui, nous discuterons, échangerons, réfléchirons.
Oui, explorerons.
Explorerons. Sur comment les industries modèlent notre imaginaire suite à cet événement assez, assez particulier qui a été la consolidation des effectifs des propriétés intellectuelles de Disney et la révélation du Shem Global 2, si on peut dire, la deuxième phase médiatique, parce qu'on est à la quatrième phase diégétique, mais évidemment, l'univers de Marvel et l'univers de Disney fonctionnent à la manière des règles diégétiques des films. Je vous l'avais dit que les pièces étaient pour être un peu éparpillées.
Elles le sont non, encore. On les rebâtit tranquillement. Là.
C'est exactement ça. Ça va avoir de l'air d'un beau casse-tête 3D à la fin. Donc, vous m'excuserez. Mais aujourd'hui, je vous présente les personnes qui viendront parler de ce world building et du moins des conséquences que ces constructions médiatiques peuvent avoir sur notre consommation et sur comment on va vivre la culture en 2020. Bonjour, Megan.
Allô.
Bonjour, c'est Catherine.
Moi. Bonjour.
Salut, André-Philippe.
Bonjour.
C'est-tu le bon micro, ça?
Je sais pas.
Ah oui. Parfait. On t'entend bien.
Okay. Belle voix. Belle.
Donc, c'est ça. C'était à la suite des cris de douleur qu'on a entendu que Sony et Disney donc, n'avaient plus. Le deal était terminé et que Spider-Man ne ferait plus partie du Marvel Cinematic Universe. Donc, des milliers de fans en ligne ont blâmé un côté ou l'autre pour dire « Ah, vous gâchez notre vie, vous enlevez Spider-Man! » Puis là, il y a eu Disney Plus qu'on a annoncé. Donc, c'était comme toute une espèce de d'information qu'on nous garochait. Puis je me suis dit, c'est un peu comme une question d'Ada pour moi. Là. Donc, le rôle des industries, de tout cet appareillage économique, copyright et compagnie. Donc, dans la manière dont on crée des histoires, puis aussi la manière dont on les reçoit. Donc, c'est un peu comme l'occasion aujourd'hui de discuter de ces choses-là et de partir de ces moments de crise. Je suis comme un peu sarcastique parce que c'est une crise, mais il y a des affaires pas mal plus importantes qui se passent dans le monde.
Absolument.
Tellement. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est que le mot clip Save Spider-Man qui est apparu très vite. Alors, je veux dire, il va quand même avoir d'autres films de Spider-Man, c'est sûr. On est déjà comme au troisième reboot.
Non, c'est ça. Et Sony a dit qu'il allait faire d'autres films de Spider-Man. Non, c'est donc, ça. Mais c'est ça. Maintenant, on a un personnage qui ne fait plus partie de l'imaginaire qu'on s'était créé avec le Marvel Cinematic Universe. On a le cœur brisé, tout le monde. Puis, il y a comme vraiment eu ce désarroi généralisé là au moment où ce que le deal entre Disney et Sony avait. Donc, c'est arrivé à échéance, dans le fond.
Oui, mais en même temps, tu vois, si on continue dans la veine du cynisme, il y a peut-être cette idée-là de comme fabrication d'un événement culturel autour de ça. Parce que toute personne qui... Bon, je comprends, là, c'est pas nécessairement la job à tout le monde d'aller faire la recherche que nous autres, on effectue ici à Pop en Stock, mais cette entente contractuelle-là, elle était... C'était entendu que ça arrêtait à deux films. C'était une entente de coopération qui existait entre Marvel et Sony qui, un peu aux grandes dames de Sony qui ne réussissaient pas à faire décoller une franchise de Spider-Man, ont dit « Tiens, vous autres, essayez si vous êtes si bons que ça. » Puis Marvel a fait « Ben, on va prendre 5% du profit. » Puis si on le fait, on split les coûts, on prend une partie. Puis si on réussit, ben, c'est le fun parce qu'au final, nous, on va être parti avec une fraction du profit engendré par notre branding, qui est l'authenticité de l'univers Marvel. Et vous autres, vous allez enfin avoir mis un petit peu plus de following derrière votre fandom, et vous allez pouvoir repartir, non pas dans une espèce de crevaison, de canard boiteux qui était la franchise avec Andrew Garfield, mais on vous redonne un second souffle, puis let's go for it!
C'était ça le deal déjà d'abord, puis il y avait une date d'échéance à ce deal-là, puis elle est arrivée. Mais il y a aussi toute la meilleure taille. La fin du deal a été publicisée au sens où un et l'autre ont dit « Ah non, mais ils ont mis fin au deal. » Mais le deal était déjà c'était déjà prévu que ça se passe comme ça. Donc, on essayait de faire mauvaise presse à une ou l'autre des compagnies pour avoir les fans de notre bord, tu sais.
Ou limite, tu sais, oui, effectivement, il y a comme une joke de lançage de boîte au visage, mais il y a aussi comme le... de faire augmenter les enjeux par rapport à la prochaine production de Spider-Man. Est-ce que Sony va réussir à conserver le vernis de Marvel? Est-ce que... Fait que c'est comme... C'est de la pré-pub, essentiellement, parce que le hype autour de ce film-là va se construire sur Sony a pris leur leçon. Ils vont nous donner... Effectivement, parce que c'est le même acteur, donc est-ce qu'il va y avoir une rupture dans la continuité ou non? C'est juste de vendre le film beaucoup... beaucoup plus tôt qu'on peut même l'anticiper.
Et vendre aussi leur espèce de nouvelle franchise à eux, parce que là, ils ont mis Venom, qui commence à faire son chemin, puis leur objectif éventuellement, c'est de comme mettre tout ça ensemble, là, donc Venom, Spider-Man et compagnie, de refaire qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les films de Tobey Maguire, là, donc faire quelque chose d'un peu plus construit. Mais, tu sais, encore une fois, on n'y échappe pas, on a encore... Toute la manière dont ces deals-là se font, la manière dont sont influencent fortement juste ces histoires-là. Maintenant que le deal est fini, Spider-Man n'apparaîtra plus dans le Marvel Cinematic Universe et dans les films de Disney. Il faut réécrire les histoires où on avait peut-être prévu qu'il soit là. Il faut trouver une raison à l'intérieur de la diégèse pour justifier cette absence-là. Et c'est les industries, finalement, qui dictent la manière que ces histoires-là vont se développer. C'est pas juste de la création et de l'intérêt de faire une histoire qui se tient. C'est vraiment « Ah, ben maintenant, on n'a plus les droits, fait que bye. »
C'est aussi là où ça devient super intéressant parce que tu es à la fois en train d'observer comme des événements diégétiques et, tu sais, comme, ouais, et des événements qui sont extra-diégétiques, donc à l'extérieur, à la fois l'histoire de l'univers de Marvel et l'histoire de l'univers de la compagnie Disney. Fait qu'il faut que tu sois capable d'intégrer ça aussi.
Mais c'est pas nouveau, parce que dans les comics, ça se fait depuis toujours. Dans les anciennes franchises un peu à la Sherlock Holmes, puis les vieilles histoires justement d'aventure ou d'intrigue, il y avait toujours des exigences de l'industrie qui faisaient en sorte qu'on avait telle ou telle histoire plutôt que telle autre.
Je veux juste m'assurer que j'ai un bon micro.
Oui, on t'entend bien.
Pas moi. C'est...
Okay. Donc, c'est ça. C'est pas quelque chose de nouveau, mais on dirait que maintenant, vu qu'on en parle beaucoup, puis que ça devient le cœur du sujet, le problème de l'industrie est mis de l'avant, tu me diras si je me trompe, là, est plus mis de l'avant que le problème de l'histoire.
Oui, absolument. C'est qu'on est rendu. Ben, je suis très d'accord avec ce que tu dis. C'est que il y a l'histoire des Avengers, il y a l'histoire du MCU. Et on suit de façon un peu supplombante l'histoire de la compagnie qui est un annexe à tout. Ah ben, on le sait qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans Endgame parce que son contrat est à échéance. C'est comme, OK, mais c'est pas supposé. C'est peut-être une façon très structuraliste de voir les choses, mais t'es comme, les considérations externes de l'œuvre ne sont pas supposées d'influencer l'intérieur de l'œuvre.
Ben, surtout si tu vois les prochains titres, comme tu vois qu'il y a un prochain film de Spider-Man, donc forcément, ben, Spider-Man qui était disparu dans le premier, désolé, mais il allait revenir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est tous ces trucs-là. En même temps, ils ont beaucoup de personnages aussi. Donc, ils peuvent se mettre, même si Spider-Man, je pense, disparaît, je pense qu'ils peuvent juste le mettre. Il y a tellement de super-héros présentement que Disney Marvel ont que, comme c'est pas le plus puissant non plus de leur univers, donc ce sera pas si grave que ça.
Non, mais ça me surprend quand même. C'est une bonne observation. Ça me surprend que Endgame se termine pas sur un destin plus tragique pour le personnage de Spider-Man, considérant qu'il le savait qu'il s'en allait. Oui. Peut-être que les ententes au préalable étaient pas 100%.
Ouais, il y a peut-être possibilité de renégociation, peu importe. Puis là, Sony a fait comme, non, ça marche bien pour nous, on va s'en charger maintenant.
Mais il aurait dû le tuer, peut-être, limite, à la fin d'Endgame.
Mais c'est parce qu'il y avait Far From Home qui s'en venait après.
Ah ouais, j'avoue.
Non, c'est ça.
Mais juste, c'était une autre affaire, justement. Il me semble que d'avoir terminé la franchise, ben, ce cycle-là, en fait, de MCU avec Endgame aurait été quelque chose de beaucoup plus climatique parce qu'on n'aurait pas pu déduire déjà du sort de certains des personnages en sachant pas du tout qu'il y a des chances de survivre ou non, parce que effectivement moi je savais que le film qui allait venir directement après c'était Far From Home qui sortait quelques mois après, oui, c'était vraiment très rapproché comme sortie, fait que ça supposait qu'il y avait au moins un personnage qui allait survivre, celui-là c'est Spider-Man et voilà.
On avait déjà le calendrier d'avance.
Exactement, c'est ça.
Fait que là il y a comme la pub qui rentre en intersection avec tout ça aussi, là, parce qu'on veut annoncer les choses avant, on veut créer du hype, puis on veut miser sur des affaires que les gens connaissent déjà pour faire de l'argent.
Non, c'est ça. Même comme début de quand on allait voir Endgame au cinéma, c'était justement le comédien qui joue Spider-Man qui disait « Restez à la fin du film, genre, il va avoir le trailer, je peux pas vous montrer tout de suite parce qu'il y a quelque chose de très important dans le film qui se passe. » Donc c'était...
Oh, ouais.
Ça avait comme plusieurs niveaux, oui, c'est ça. Parce que le trailer commence avec... tout le monde qui n'a pas écouté Endgame, n'écoutez pas les à peu près 10 prochaines secondes. Iron Man meurt, donc...
Ouais, c'est ça. Donc, ça n'avait pas le choix de repartir. Commence de ce moment-là. Ouais, c'est ça. Mm-hmm. Ah non, c'est là où c'est que on est autant des commentateurs culturels que des commentateurs de l'industrie culturelle quand on se met à fouiller là-dedans. Puis c'est pour ça que, autant qu'à Popenstock, on est souvent en train de regarder des phénomènes. Là, on est un peu en train de regarder un méta-phénomène. On regarde quelque chose qui est plus gros puis qui met un peu tout le monde dans une position d'expertise. Tout le monde a un peu un espèce de sentiment de comprendre les tenants et aboutissants de la compagnie, donc de pouvoir déduire qu'est-ce qui va se passer dans les films.
Puis, encore même quelque chose que je dirais qui est peut-être un peu plus nouveau, ça, ben, en fait, ça existe sûrement depuis longtemps, mais que ce soit fait autant peut-être dans la culture populaire mainstream, c'est que même les films font des commentaires méta-narratifs. Je pense à Deadpool qui disait, on dirait que le studio n'est pas capable de se payer plus qu'un X-Men, ou dans Les Mondes des Ralph 2, ou comme une année, tu as le personnage principal de Rebel, j'ai oublié son nom, de Brave, qui commence à parler, et personne n'est capable de comprendre, puis comme. Avec un autre studio. Genre, c'est pour ça qu'on comprend pas trop ce qu'elle fait. C'est genre le truc que je trouvais quand même assez bien. Comme foutu de te jeter la personne va se faire. Qu'est-ce qu'elle dit? Puis là, tu penses que ça va être une blague un peu raciste, genre, et t'es cossaise et tout. Puis là, c'est comme. Avec un autre studio. OK, là, ça va. Ça me plaît.
Ben, je pense aussi à la blague du film de Teen Titans Go où Stan Lee fait des caméos à répétition jusqu'à un point où ce que Robin lui dit, t'es pas dans la bonne franchise. Puis Stan Lee répète, enfin, il réplique c'est un caméo, je m'en fous. T'sais. Il est juste comme content, il est caméo crazy.
Il est juste content d'être là.
Ça, c'est trop fort.
Ah, OK. Mais ça,
c'est des personnages, puis c'est des films comme Wreck-It Ralph, qui c'est. Depo, c'est un personnage méta. C'est sûr qu'il va faire des commentaires. Puis il le faisait aussi dans les comics. Puis, tu sais, il y a des événements de comics comme. J'en ai rien qui me vient en tête, mais des gros événements où il fallait tuer tous les personnages pour faire des reboots.
Oh, oui, Crisis on Infinite Earth.
Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose de récent, mais c'est maintenant quelque chose que tout le monde, comme tu disais, Jean-Michel, tout le monde a un peu son opinion à dire là-dessus parce qu'on en parle tellement qu'on se sent tous un peu experts pour commenter là-dessus.
Oh, oui. Ben, récemment, tu vois, ça, c'est quelque chose qui s'est passé dans le comic book, mais que les gens n'ont pas nécessairement eu connaissance. C'est toute la disparition des titres de Fantastic Four. Récemment, là, j'exagère beaucoup, là, on date, je pense que c'est quelque chose qui s'est passé autour de 2014-2015, mais suite au fait qu'il y avait des productions de films de Fantastic Four, sous Ike Perlmutter, le diable en personne. En fait, plutôt que de faire de la publicité pour des films de Fantastic Four de Sony, Marvel, ou la branche éditoriale de comic book de Marvel, a décidé de ne plus avoir de livres de Fantastic Four du tout. Et il y a eu, c'est ça, vers 2015, une espèce de grande disparition, à un point tel qu'il y avait, par exemple, des... je vais peut-être mal prononcer son nom, mais honnêtement, c'est pas... OK, non, c'est pas... il y a même eu comme des rééditions de T-shirts, par exemple, de la couverture du Secret War numéro 1, d'où on avait éclipsé le personnage de Reed Richards. Il n'y avait même plus de personnage de Fantastic Four sur le T-shirt. Le chandail iconique de Fantastic Four.
On retconne même les produits dérivés.
Ouais, exactement. C'était comme dans un... Et tout le monde le savait que c'était fondamentalement pour une raison qu'on ne donnera pas de publicité gratuite à un studio qui va faire un film avec notre propriété. Donc, il n'y aura même pas de comic de Fantastic Four qui, on s'en rappelle, est...
la base c'est du ça, Marvel. Les premiers qui ont sauvé Marvel. La Terre...
Pis c'est ça, pis ça a recommencé là, ça a recommencé il y a à peine un an, ben peut-être plus qu'un an maintenant, mais quand Nick Spencer est passé sur Spider-Man, il a laissé la place à Dan Slott pour faire Fantastic Four, puis là Fantastic Four est reparti dans la grosse foulée de, on le sait que maintenant il réintègre l'univers du MCU, fait que c'est vraiment des moments, c'est des décisions, des impératifs économiques, des décisions corporatives qui viennent mettre le doigt dans un univers puis qui disent, ben non, à partir de maintenant, il faut que tu fasses à semblant que Fantastic Four n'existe plus. Puis là, il y a eu un 3 ans, 4 ans pratiquement dans l'univers de Marvel où tu ne peux pas dire Reed Richards parce que
des tabous là,
ça appartient à quelqu'un d'autre, t'es comme oh shit, ouais, c'est des gros trucs,
ouais. Mais c'est intéressant aussi tous les trucs des produits dérivés parce que ça met en jeu aussi un autre pion dans l'équation qu'on n'a pas parlé encore, mais c'est le fandom et les fans qui tu sais, on s'entend que toute cette publicité-là, on l'a fait à qui? On l'a fait aux fans, on l'a fait aux gens qui consomment ces produits-là. Puis les fans, c'est un peu, d'une certaine manière, des genres de gatekeepers de l'univers fictif et de leur intégrité. Mais en même temps, là, on est divisé parce que, surtout pour l'univers cinématographique des super-héros, là, ça, c'est quand même un bon indice. Mais ça me rappelle aussi un exemple que tu m'as mentionné, Catherine, ce matin, à propos de Star Wars puis du casque de Kylo Ren.
Oui, c'est ça. Oui, il y a eu une mini controverse sur les interwebs dans les dernières semaines parce qu'il y a le trailer du dernier film de Star Wars, celui qui va sortir en décembre, qui vient de paraître. Et apparemment, dans le trailer, le personnage de Kylo Ren a son casque qui l'a détruit au début du dernier Jedi. Oui. Alors là, les gens, bien sûr, ont tout de suite essayé d'injecter une espèce de sens là-dedans, en se disant, mon Dieu, il y a peut-être un retour de, peut-être que ça indique la trajectoire du personnage. Quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui s'est souligné, je pense sur Twitter, ben non, en fait, la raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est sûrement parce que Walt Disney veut sauver un peu d'argent sur la peinture pour faire les figurines. Alors, on va y mettre un casque parce que c'est plus facile à reproduire qu'un visage humain. Ouais. Okay. Ah ouais, c'est ouais, ça.
C'est de la déambulation un peu, là.
Oui, ouais. c'est ça.
Qu'est-ce qui est vrai, on sait pas.
Qu'est-ce qui est vrai, on sait pas, mais justement, on est dans toute cette logique-là de est-ce que les corporations sont en train de prendre le dessus sur les produits artistiques et les produits culturels, et dans le fond, ça, on pourra pas savoir quel est le fin mot de cette histoire-là avant de voir le film, mais pour l'instant, c'est une espèce de théorie de complot, en fait.
Oui, c'est une théorie de complot artistique. C'est comme on est proche du conspirationnisme.
Oui, exactement, on est proche du conspirationnisme, mais justement, on pourra pas le savoir avant que le film sorte.
Mais ça peut avoir aussi plusieurs arguments. Ça peut être cet argument-là, mais c'est aussi que ça revient à J.J. Abrams, la franchise, celui qui avait réalisé épisode 7, qui était lui qui avait mis un casque. Donc, je trouvais que c'était très, genre, un peu cadavre-esqui, genre, il y a une première version qui est faite, Johnson qui a fait l'épisode 8, Last Jedi, fait un peu l'inverse, et l'autre dit non, je reprends mon casque, je le refais. Donc, je trouvais ça quand même très intéressant d'un point de vue plus narratif.
Ouais, ben, c'est aussi comme si tout le monde qui écoute des films depuis si longtemps finisse par oublier la notion de flashback. T'sais, ça peut aussi juste être aussi simplement une affaire de comme...
Aussi.
Non, il s'est passé quelque chose sur ce vaisseau-là, puis on est revenu. That's it. C'est ça, c'est comme si le rasoir d'Occam ici échappait à tout le monde.
Voilà.
Mais il n'y a pas une scène où il ressoude son casque vraiment comme...
J'ai l'impression que moi aussi, j'ai une espèce de...
Il me semble, il y a vraiment l'air d'être le casque détruit qui est ressoudé. Ça n'a pas l'air d'acheter une création de casque, mais vraiment de refaire le casque qui a été brisé au début.
La reconstruction du personnage.
Exactement, comme du Darth Vader.
Mais
encore une fois, on fait encore intervenir les instances, c'est les réalisateurs. Là, c'est Rian Johnson contre J.J. Abrams.
Oh, vraiment?
On finit juste par utiliser ce vocabulaire-là pour justifier les choix narratifs là, au final. C'est comme, ah oui, mais tu sais, J.J. Abrams est attaché à ça, fait qu'on revient à qu'est-ce qu'il
dit. On est pas en train, t'as raison, on n'est pas en train de penser à... Puis c'est ça que ça fait, tu sais, l'idée... Bon, tu l'expliquais en introduction, on est dans un climat un peu... dans le climat le plus déstabilisant pour les franchises, parce que Disney a fait le rapatriement, le grand rapatriement. Là, je suis sûr qu'historiquement, on va parler de ça. comme ça. Le grand... c'est quoi la... Comme, Sherlock Holmes, hein, le grand schisme, le grand...
Le grand hiatus,
exactement, merci. Nous autres, ça va être le grand rapatriement de 2019, où Marvel a fait « Il n'y a plus d'Agents of S.H.I.E.L.D. Let's fire Daredevil sur Netflix. » On ramène tout ça, on veut raconter l'histoire de Vision et Wanda.
Ouais, on veut Disney Plus. Ça, c'est quand même, ça a été une grosse nouvelle. T'en as parlé un peu, Jean-Michel, sur les réseaux sociaux, mais je trouve que c'était vraiment des observations quand même assez justes de, avec Disney Plus, on veut ramener le slow TV. Donc, l'épisode à la semaine pour un peu contrecarrer qu'est-ce que Netflix avait fait avec le binge-watching. Puis, ça avait quand même eu un gros impact sur la manière dont on écrit les histoires aussi, cet phénomène-là du binge. Puis, aussi, on a comme atteint, je pense, collectivement, un écran de titre binge-watching.
Une saturation, peut-être, en tout cas. Peut-être. On a tellement de la misère à suivre tout ce qui se fait en ce moment que tout le monde est genre comme, hey, donnez-nous 2 ans de break, on va commencer à faire la TV après, comme on va juste être à jour, c'est on va sortir la tête de l'eau.
On était soufflé en ce moment par l'offre, puis c'est pas nécessairement, on est qualité versus quantité, on est vraiment dans la quantité avec maintenant le Netflix aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense qu'on a reçu ça d'un premier coup d'œil positivement, de faire comme, ah, c'est fun, c'est parce qu'avec HBO, avec Game of Thrones, on aimait ça, les épisodes à la semaine, le Water Cooler Effect et compagnie. Puis ensuite, ça fait, OK, mais là, les gens qui vont vouloir écouter The Mandalorian vont être obligés de se payer leur Disney Plus pendant une couple de mois, là. Est-ce que c'est un coup marketing?
Encore une fois, il peut avoir les deux.
C'est vrai.
C'est ça, là.
Mais c'est drôle, c'est pas nécessairement hors sujet, mais c'est proche d'une autre réflexion que je voulais partager ici. C'est l'idée qu'on dirait que Disney est actuellement dans une espèce de retour qui va paraître très progressiste ou qui va paraître très comme prochaine étape, mais qui est un peu une espèce de retour à un état initial. C'est l'observation que j'avais avec le dévoilement de la phase 4. Quand la phase 4 est sortie, les gens ils ont tout fait comme, mais c'est quoi cette grille bigarrée de Shang-Chi, Master of Kung Fu à Doctor Strange versus the Lords of Chaos?
The Eternals.
C'est ça, The Eternals, exactement. Puis il y a le premier truc qui m'a frappé, c'est qu'on a vécu pendant à peu près une vingtaine d'années, mais tu sais, ça a été une progression lente, l'hégémonie du film de super-héros, qui a fait qu'on traitait le film de super-héros comme un genre. Puis c'est effectivement avec les codes du genre du film super-héroïque qu'on a traité le corpus au complet. Ça l'a considérablement réduit le reste de la production filmique. On s'est débarrassé du cinéma de genre. Je trouve, il y a comme un espèce de moment là, quand Marvel a vraiment pris son essor, qu'on perdait le cinéma de science-fiction, on perdait le cinéma d'horreur, on perdait, parce que c'était tout le cinéma de super-héros, le genre super-héros qui prenait le dessus. Et en regardant Phase 4, j'ai fait, oh, hey, check ça, il y a un film de kung-fu. Check ça, il y a un film dans l'espace. Check ça,
il y a un film de magicien.
Il y a un film d'horreur, parce que le nom de Doctor Strange mentionne implicitement la possibilité d'avoir le crossover avec l'univers Lovecraftien. Fait que moi, je pense que c'est Doctor Strange versus Shub-Niggurath, là, qui existe dans l'univers de Doctor Strange. Fait que, autant que, tu sais, Parce que bon, je l'ai toujours dit, moi, mon film de Marvel préféré, c'est Captain America 2, parce que c'est pas un film de super-héros, c'est un film d'espionnage avec Robert Redford, où t'as mis Captain America dedans. C'est ça qu'on va avoir dans Phase 4, c'est plein de films de genre, que ça soit, tu sais, orienté vers la communauté sino-américaine avec Shang-Chi, que ça soit, tu sais, on va toutes les avoir. On va avoir un film straight pipe Kirby, électricité, néon, ça va avoir l'air de Tron, cette affaire-là. On va avoir vraiment une grande diversification des genres de films de super-héros. Puis ça, c'est comme, ça va être accueilli comme un vent de fraîcheur. Tout le monde va faire, enfin, pas des films de super-héros, des films avec des super-héros dedans. C'est une espèce de rétro, on recule, mais pour enfin redonner du lousse à l'industrie, qui est un peu à la manière de qu'est-ce qu'ils font avec les épisodes Wiseman. On prend on retourne à une tradition pour redonner un lousse, pour redonner un...
J'aime ça. Juste une question par rapport à ta théorie, que je trouve vraiment très intéressante. J'espère qu'ils vont réussir à le faire, parce qu'ils pourraient avoir peur de, comme, s'ils vont trop dans l'horreur, permettant leur audience plus enfant et tout. Donc, c'est juste, mais est-ce que tu crois qu'ils vont être capables de faire ça pour Star Wars, pour leur film d'animation en général, de vraiment aussi s'amuser à différents genres, puis diversifier ainsi?
Ben, il y a pas des, on voit pas la grille de Star Wars, sauf Resistance, mais tu sais, le fait que tu regardes, moi, je suis 100% convaincu, je suis revenu sur l'exemple de Wanda puis Vision. Moi, je pense que ça va être une histoire d'amour. Je pense qu'ils vont faire la première histoire d'amour, ça va être genre The Notebook, là.
C'est revenir à romance.
C'est ça, les romance comics vraiment, de comme je l'aime, mais il n'y a pas de cœur. Parce que c'est un robot. Ça va être extraordinaire. Ça va tellement rocker. Le body, tu sais, ça va être Lethal Weapon, sauf que ça va être Black Captain America puis Russian Winter Soldier. Ça va être malade, ça, avec l'idée de faire une proposition d'un truc comme What If, qui a été annoncé que Peggy Carter va être Captain America dans le premier What If. T'sais, l'idée d'une télésérie qui sert juste à dire « Hey, pourquoi pas cette idée-là? »
c'est quand même, c'est quelque chose qui était dans les comics qui amène à la télé maintenant. Là. Ça, c'est ça. C'est de montrer aussi parce qu'on s'entend dans la culture populaire en général, il y a quand même une hégémonie médiatique, au sens où il y a des médias qui ont plus de visibilité que d'autres. Le cinéma a plus de visibilité que la télé. La télé a plus de visibilité que le comics. Oui. Et le comics a plus de visibilité que le roman, par exemple. Si on veut, là, ça dépend des publics.
Ouais, c'est ça, je suis pas sûr pour le comics versus le roman. Mais...
Ouais, ça dépend des gens qui veulent lire, là, mais en général. Là,
il y a juste X-Men qui est lu. Il y a juste X-Men et Hulk qui est lu actuellement.
C'est ça. Mais il y a aussi de ça que, comme, on fait monter un concept qui existait dans les comics à un autre niveau de visibilité médiatique qui est celui de la télévision. Puis là, on va aller creuser là-dedans. Mais pour revenir à ce que tu disais, André-Philippe, parce que c'est ça, Marvel a montré son calendrier, puis là, on est vraiment excités. Puis là, maintenant que t'en parles, Jean-Michel, je suis comme encore plus excité parce que j'avais pas pensé à ça.
C'est une belle proposition.
Vous aviez pas?
Je connais pas assez le corpus, honnêtement, pour voir ce que t'as vu. C'est là où t'es quand même une expérience super-héros, puis tu vois tout de suite les liens. Je connais même pas The Eternal pour donner une idée. Là.
Ah, c'est les Celestials, c'est toutes les petits. Ça va être Campbell. C'est comme tout le monde va connaître Campbell à la fin, là. Ça va être George Lucas sur le crack.
Ça va être vraiment cool. Mais c'est ça, d'un autre côté, quand tu regardes le reste du corpus Disney avec tous les remakes des classiques, donc on est dans la grosse vague de on refait nos films d'animation classiques, puis les Star Wars qui reviennent aussi à leur avec Ewan McGregor qui a été recasté à Obi-Wan Kenobi.
C'est vraiment une petite parenthèse, mais regarde, c'est vraiment tout petit là, mais la dernière bande annonce de Star Wars épisode 9 a plus d'images des films avant que des nouvelles images. J'ai chronométré 1 minute 14, je crois, pour à peu près juste 40 secondes de nouvelles images. C'est leur dernière bande annonce, je vois que je veux des nouvelles images.
Ouais, là, tu vas les avoir.
Oui, c'est ça.
Putain. Ouais, faut être patient. Mais, tu sais, ils misent sur, justement, ce lien-là avec le passé.
Tellement.
Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, toute cette vague-là de nouveautés qui s'en viennent du côté des super-héros. Puis, t'as toute l'autre vague, plus conservatrice, plus nostalgique, si on veut. Mais aussi, on va pas se mentir, là, les remakes des classiques, c'est parce qu'ils veulent garder les droits sur les films. Là. J'ai fait des petites recherches avant de venir. C'est 28 ans le nombre d'années, faut que tu refasses une production. Puis c'est ça, mettons, Le Roi Lion qui est sorti cette année, la dernière fois qu'il est sorti, c'était en 1994. Fait qu'on est à 25 ans après. Là. Ouais. Donc, tu vois que oui, il y a une volonté de faire retour, mais comme quand tu refais un film plan par plan en live action, il n'y a rien de nouveau qui est ajouté, mm-hmm. outre le ça. Fait que maintenant que tu gardes. Fait que c'est une autre influence qui... un autre aspect industriel ouais. qui influence qu'est-ce, l'offre qu'on a en ce moment, c'est les franchises ou les compagnies qui refont à répétition des films, pas nécessairement pour faire plaisir aux gens. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qui sont contentes d'avoir ce retour-là, mais aussi pour garder des droits sur des propriétés intellectuelles.
Mm-hmm. Puis, même si je suis très mitigé, il faut quand même dire que ça fait plaisir au grand public, comme aux fans en général, parce que je veux dire, La Belle et la Bête, qui était du plan par plan, a été le plus gros blockbuster de cette année-là, 2017. Mm-hmm. Le Roi Lion risque de l'être pour cette année. Donc, à part avec Endgame, là, mais je veux dire, parmi les meilleurs.
Il n'y a rien, en fait, c'est de faire confiance à Disney et savoir qu'ils ne prennent pas de risques pour rien. C'est facile. Ouais. T'as eu deux enfants, ben tu vas être autant heureux d'aller voir ce film avec tes deux enfants. Fait que là, c'est trois billets qui sont payés.
Pour briser le cœur de ton enfant, encore une fois, regardez, Mufasa mourir,
c'est ça.
Non, mais juste que c'est comme un trauma qu'on se partage de génération en génération. Donc, il faut quand même que l'autre génération pleure un peu devant des antilopes. Là.
Ben oui, bien sûr, ça fait partie. Après ça, ça entre dans l'imaginaire collectif, tu sais, ça fait des références qui sont partagées entre les générations, c'est ça. Un des avantages des remakes, c'est justement de maintenir ces références-là d'une génération à l'autre puis de les faire perdurer dans le temps, tu sais.
Ce que je trouve quand même fascinant, puis il y a du monde qui l'explique, Nature Jacques Critique a fait un épisode où il met quatre raisons pour lesquelles ça marche bien, que ces remakes-là marchent, mais je veux dire, si c'était juste nous qui sommes contents de voir nos films de notre enfance avec nos enfants, on pourrait juste leur montrer celui de 94. Oui, puis pour moi, La Belle, la Bête, Le Roi Lion sont des films qui n'ont pris à peu près aucune ride. Peut-être niveau comme question des représentativités, des femmes, des trucs comme ça, évidemment, là, mais de façon générale, c'est des très bons films pour le reste.
Mais on s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de déviations par rapport à ce que c'était. Là. C'est du plan par plan. À part La Belle et la Bête, là, on a ajouté un peu de backstory au personnage, le fou. Là, puis
oui, ben, c'est ça.
Son orientation sexuelle pour choquer une couple de famille aux États-Unis.
Oui, ben, en plus, mais c'est ça, c'était particulier ce qu'ils ont fait avec avec La Belle et la Bête, parce que justement ils sont allés chercher des acteurs qui faisaient du théâtre musical, contrairement aux autres adaptations qu'ils avaient faites avant et contrairement à celles qu'ils ont faites depuis. Je veux dire, on a Beyoncé qui participe à la soundtrack du Roi Lion.
Ouais, ça c'est quand même.
Mais je veux dire, et Donald Glover, c'est ça, faut pas oublier Childish Gambino, mais je veux dire, ce qu'ils ont fait avec La Belle et la Bête, c'était prendre Luke Evans, prendre Kevin Klein, prendre Josh Gad, qui sont des acteurs de musical qui ont fait du Broadway, puis qui sont capables de porter un film comme ça. Ce qui s'est passé avec Cendrillon, c'était pas ça du tout, par exemple, qui était juste une couple d'années auparavant. Ça, il n'y avait pas de numéros musicaux.
Il n'y avait pas de musique. Il n'y avait pas de musique
autant je me souviens dedans.
C'est ça. Ouais. Fait qu'il avait complètement effacé la trame musicale, ce qu'il avait fait auparavant avec Snow White and the Huntsman, avec l'histoire de Blanche-Neige. Ouais, c'était justement essayer de donner une twist plus dramatique. Il avait complètement évacué la musique. C'est ça.
Mais Snow White and the Huntsman, c'était plus dans une époque darkening.
C'était une époque darkening.
Une époque où c'était pas des calques vraiment très proches. Cendrillon est déjà un premier calque, puis c'est voir La Belle et la Bête.
Oui.
Je voulais à tout prix citer Lydie Ellis, qui est une YouTuber. Il y en a pas tant que ça, en plus des femmes qui font vraiment comme de la culture pop beaucoup. Ben, il y en a sûrement plein, mais qui sont comme mis au devant de la scène. Puis est vraiment géniale, elle travaille beaucoup Disney. Puis elle a notamment fait une vidéo qui est ce moment où Disney a fait un remake de La Belle et la Bête, où en 40 minutes, elle explique en quoi les changements, qui étaient beaucoup les changements, justement, venant des communautés de fans qui critiquaient des choses, comme des petits points, des petites vidéos ici et là, elle explique comment Disney a essayé de satisfaire ça, mais que ça donne un film avec beaucoup moins d'unité, et justement avec du féminisme un peu fake, qu'ils ont fait une grosse campagne, que le fou serait leur premier personnage homosexuel et tout. Ils ont mis une grosse campagne, alors que c'est au final qu'un regard dans une scène et que c'est vraiment très très light.
Ouais, mais c'est intéressant ce que tu amènes là, parce que c'est quand même un gros choc de cette problématique-là. Mm-hmm. C'est surtout avec Disney, c'est d'un côté, on a les fans qui, depuis toujours, là, c'est vraiment depuis que la culture populaire existe, écrivent leurs propres histoires, puis réécrivent leurs propres histoires pour justement inclure plus, pour s'inclure là-dedans, donc pour avoir un peu plus de diversité sexuelle, raciale ou peu importe. Mm-hmm. Fait qu'il y a ça ici, là, Disney a vu, maintenant ça pogne le féminisme, puis la diversité culturelle, on va essayer d'en mettre un peu plus dans nos films pour justement un peu surfer sur la vague in du Social Justice Warrior. C'est sûr que là, maintenant, il y a des gens qui sont pas contents, là, parce qu'on les entend très fort sur Twitter aussi, là, toutes les controverses entourant le casting dans Star Wars épisode 7.
Ah, ben c'est ça, j'allais dire Star Wars, ils ont assez bien réussi en plus à le faire, à mon avis, là, jusqu'à là. J'ai hâte de voir Star Wars épisode 9 sur cette question-là.
C'est ça. Puis, oui, Catherine?
Mais en fait, moi, je trouve que c'est un non-problème parce que les films de Disney, il y a toujours eu un commentaire sur différents aspects politiques, sur le féminisme et tout. Je veux dire, La Belle et la Bête, déjà en bande dessinée, La Belle était déjà une femme progressiste n'est pas de son époque.
Elle lisait des livres.
Oui, elle lisait des livres. Je veux dire, la manière dont il parle des Autochtones dans Pocahontas est déjà très intéressante parce qu'il y a tout ce parallèle-là par rapport au colonialisme, par rapport à la sauvagerie de l'envahisseur. Je veux dire, il y avait déjà des commentaires politiques, mais le problème, c'est que dans le temps, on parlait pas de Social Justice Warrior.
Ouais,
il y avait pas cette notion-là, c'est ça, de justicier de la société, de représentativité. Ouais. Fait que ces éléments-là se retrouvaient déjà dans les films, mais ils étaient pas discutés dans la sphère publique comme ils sont aujourd'hui.
Non, c'est ça, mais c'est maintenant aussi, il y a comme tout un backlash parce que d'un côté, la parole féministe Social Justice Warrior s'affirme en tant que parole progressiste et qui va contre justement le discours le discours plus
conservateur.
Conservateur, oui, merci. Puis
c'est des gentils.
Là, maintenant c'est ça, cette parole-là s'affirme. Donc, on identifie ces représentations-là de femmes fortes ou de, justement, tout ce qui n'est pas white male et compagnie. Là. Donc, on identifie ça à, justement, de la politique. Puis ça, c'est comme un des arguments les plus drôles. Puis drôle dans le sens que c'est complètement ridicule de gens qui font comme oui mais faut pas que Star Wars ça devienne politique.
Star Wars ça a toujours
c'est
été
ça,
politique.
Marvel, Disney, c'est tous des univers qui sont intrinsèquement.
C'est des combats, c'est des combats politiques, c'est l'Empire contre la Résistance. Oui, c'est comme ça l'a toujours transporter un discours politique là-dedans. Mais là, maintenant, juste être une femme ou une personne de couleur dans un film mainstream, ça devient un statement politique.
Puis, exactement.
Juste pour ceux qui connaisseraient moins bien Star Wars que moi, puis mettons Catherine, puis Megan, toi aussi, je pense que tu connais très bien, là, il y avait des extraterrestres dans les rebelles à l'époque. C'était déjà une manière comme métaphorique de le faire.
Ouais, mais il y avait quand même comme...
Mais il y avait aussi des personnes racisées, me semble.
Il y avait Lando. Bien sûr,
Lando.
Il y avait Lando, mais il y en avait d'autres. Ou c'est peut-être dans les prequels, en fait?
Ouais, c'est dans les prequels, il y avait
Mace Windu qui est un maître Jedi, le plus comme celui qui est rentré le plus tôt en plus dans le conseil Jedi avant peut-être Anakin.
Ouais, mais c'est ça, mais c'est comme ça la joke qu'il y avait Childish Gambino
Donald Glover
qui est allé à Saturday Night Light l'année dernière, je pense. Puis il y avait un sketch justement de Star Wars, c'était comme la réunion intergalactique des personnes noires, puis il y avait comme 4 personnes. Tu sais, c'est pour dire OK, il y a plein d'extraterrestres, il y a plein de blancs dans votre franchise, mais on est juste 4. Comme ben pourquoi on peut pas être plus? Puis c'était aussi un débat quand justement j'ai oublié son nom mais Finn avait été cassé, donc j'ai oublié le nom de l'acteur.
John Boyega?
Oui, merci. Boyega.
Boyega?
Boyega, oui, c'est
Dieu,
ça.
Pardon.
Donc, il avait été casté, puis là, il y avait comme tout l'argument des femmes qui disaient « Oui, mais les Stormtroopers, ils peuvent pas être noirs. »
C'est justement ça que je trouvais génial, comme niveau esthétique, juste t'enlèves ton casque, c'est comme t'es tout blanc, puis là, c'est noir, en dessous, c'était génial.
C'est ça. Mais c'est quand même un truc assez commun, au sens où, comme je disais tantôt, juste être une personne noire dans un film de Star Wars, ça devient un statement politique, mais les gens qui critiquent justement ce statement politique-là le disent pas avec ces mots-là, ils disent pas « Ah, mais c'est politique », ils essaient de le justifier avec un discours rationnel de fan, de dire « Ah, mais ça fait pas de sens dans la diégèse », alors que tout peut faire sens dans la diégèse si tu réussis à bien expliquer, à bien écrire ton histoire. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de discours racistes ou antiféministes ou misogynes qui utilisent le cover justement de la continuité narrative ou de la logique intra-diégétique pour partager justement leur discours plus conservateur.
Ouais, ben, le seul chose que je pourrais comprendre, à la limite, c'est une peur que ça devienne trop didactique comme message, genre comme les gentils sont comme ça, les méchants sont comme ça, mais je veux dire, en même temps, on parle de Star Wars, ça a toujours fait ça énormément, oui. Là, je veux dire. Si on me disait ça, peut-être à la limite pour Star Trek, je pourrais peut-être à la limite comprendre, parce qu'il y avait quand même cette idée-là de diversité et de complexité assez grande dans Star Trek de début, mais Star Wars a toujours été très manichéen, très campbellien, ah, oui. Et tout, même chose pour Disney, donc je veux dire, vous avez peut-être pas les meilleures franchises pour dire ça en plus, là.
Non, c'est ça, mais puis comme on s'entend que les nouveaux la nouvelle trilogie de Star Wars avec, voyons, hey, j'ai pas mes mots à soir, mais tu sais.
Vas-y, je vais t'aider.
Les méchants.
Le First Order.
Le First Order, qui est comme une esthétique très, très nazie. Mm-hmm. Tu sais, c'est assez évident de savoir qui sont les pas gentils. C'est comme...
Parce que je veux dire, les fascistes sont peut-être pas, non?
Les fascistes ou les gens qui ont comme qui font des parades militaires, c'est peut-être pas nécessairement
qui,
les gentils.
Qui détruisent le siège avec leur nouvelle étoile de la mort. Non, peut-être pas.
Et en plus, c'est une réécriture. On sait, l'épisode 7, c'est une réécriture de l'épisode 4. C'est exactement vraiment la même chose. Mm-hmm. Puis si tu connais bien ton Star Wars, si tu connais bien tes codes, justement, du bien et du mal, tu sais rapidement. Tu sais, c'est sûr que Star Wars est comme ça. Star Wars est écrit comme ça. Mm-hmm. Il y a peut-être d'autres films comme les films de super-héros qui ont plus d'ambiguïté morale, mais on s'entend que Thanos, c'était le méchant.
Oh, oui, oui. C'est un méchant intéressant, mais ça n'empêche pas que c'est un méchant. Mm-hmm. Comme il est très placé comme l'antagoniste avant qu'on va pas raisonner avec lui sur ses enjeux philosophiques.
Ben oui, c'est ça. Donc. Bon, de quoi on parlait?
Tu parlais de Star Wars.
Ouais, ouais, c'est ça. Donc, oui. on avait. Donc, il y avait ça. Il y avait les remakes, les reboots aussi, qui sont une autre manière, justement, que les compagnies utilisent pour faire de l'argent, mais où on fait comme si tout ce qui était arrivé avant n'avait pas existé, puis mm-hmm. on recommence du début pour mm-hmm. avoir de plus en plus de fans. Donc, c'est une autre technique aussi qui est employée mm-hmm. par les compagnies transformer aussi les histoires, puis la manière dont on écrit des histoires, mais encore une fois, on reste dans une idée de filiation avec ce qui existait déjà mm-hmm. avant.
Puis même, comme on parlait justement de Star Wars, j'en parlais, il y a comme une sorte de dissémination jusqu'à un certain point, parce qu'ils ont plusieurs périodes, ils ont plusieurs âges, ils s'amusent beaucoup à le mettre en valeur, ça a toujours été le cas, là, mais. Et là, dans tout ce qu'ils ont annoncé dernièrement jusqu'à 2022, il y a des trucs qui apparaissent dans à peu près tout leur temps narratif, dans chaque période. Donc, mettons, si t'as moins la période actuelle, tu peux retourner à l'époque de Clone Wars, tu peux retourner aussi avant, en mettons Star Wars épisode 6, Star Wars. Donc, il y a vraiment des trucs qui se passent un peu partout, ce qui est juste niveau esthétique peut être intéressant parce que c'est pas nécessairement les mêmes vaisseaux et mm-hmm. les mêmes groupes, les mêmes personnages, les mêmes figures.
Ou les mêmes thématiques ou les mêmes histoires, là, parce que oui. Les histoires de Bounty Hunter, c'est pas les histoires de Jedi, puis c'est pas les histoires de la Résistance.
C'est quelque chose qui avait été jusqu'à date très peu exploité comme dans tout ce qui est visuel. Il y avait eu une trilogie sur les chasseurs de primes qui avait été faite, qui explique que Boba Fett est pas mort dans le Sarlacc dans l'épisode 6. Mm-hmm. Il a tué la belle, il est sorti, puis c'est une excuse pour donner à la fois son passé et son futur. Mm-hmm. Mais c'est ça, ça avait très peu utilisé, puis c'est un personnage vraiment très aimé, très le fun. Donc c'est là où mm-hmm. Disney Channel et Disney Plus est très habile là-dedans.
Non, c'est ça. Il est très, très aimé, mais aussi il est aimé par la quantité de mystère qu'il dégage parce qu'on ne mm-hmm. connaît rien de ce personnage-là. Mm-hmm. Puis ça me rappelle une discussion qu'on a eue ce matin avec Catherine sur justement le. Pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, toutes les frustrations que les fandoms peuvent avoir par rapport aux franchises, ces frustrations-là mm-hmm. qui sont causées par justement l'influence des industries sur la manière dont on écrit des histoires maintenant. Donc, mm-hmm. Tu sais, Spider-Man, c'en est une, là, maintenant. Tout le monde est frustré parce qu'il sera plus dans le MCU. Puis là, il va y avoir sûrement des fanfictions qui vont réécrire les histoires à venir pour dire mm-hmm. « Ah, mais si Spider-Man avait été là, ça aurait été... » Fait que, tu sais, il y a aussi toutes ces frustrations-là qui émergent sur toutes les, par exemple, les personnes queer, le manque de personnes de diversité raciale. Ça fait que les gens vivent la frustration et créent du contenu de fans. Donc, les fanfictions, du fan art. Puis là, on veut essayer de remodeler ces histoires-là sans l'influence, justement, de mercantile ou... C'est sûr que quand on fait un film, on essaie de rejoindre le plus gros public possible. Fait que,
oui.
Nécessairement, on prend moins de risques.
Oui.
Oui, ben en fait, ça c'est assez intéressant parce que c'est ça, on peut avoir l'impression que c'est un phénomène qui est nouveau parce que là c'est vraiment mis de l'avant dans la sphère médiatique. On parle énormément de tous ces deals-là, puis justement des intérêts mercantiles de Disney, de Sony par exemple. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est que là où il y a de l'art, il y a de l'argent à faire, et que ça c'est les industries qui régissent les différentes sphères artistiques existent depuis littéralement la nuit des temps. C'est comme un sujet amené d'un travail de cégep. Mais bon, ça existe depuis que toujours. Depuis que l'homme est l'homme.
Je sais pas si vous savez, mais juste une petite parenthèse, il existe une page Facebook qui fait genre ça avec plein de sujets. C'est tellement magnifique de. tu regardes leur sujet, t'es comme genre les Sims, quand ils sont arrivés à plugger ça depuis la nuit des temps. En deux phrases, ils sont arrivés.
Depuis la nuit des temps, les hommes sont jaunes. Aujourd'hui, les Simpsons existent à la télévision. Ça peut être un
Merci.
Oui. Mais oui, c'est ça. Donc, il y a toujours eu des instances pour régler et contrôler les différentes formes d'art auxquelles le public a accès. Donc, c'est ça, on a parlé tantôt, t'as mentionné la question d'hégémonie, la question de domination. Il y a ce phénomène qui a été étudié par, entre autres, Antonio Gramsci, qui s'appelle l'hégémonie culturelle, qui est le principe de domination culturelle par les autorités et des autorités du public. Donc, c'est l'idée que dans la sphère culturelle, il y a certaines valeurs qui sont mises de l'avant, dépendamment de l'époque dans laquelle et le contexte dans lequel on vit. Mm-hmm. Et ce sont ces valeurs-là qui sont constamment recyclées et réemployées dans un contexte artistique. Donc, on va toujours mettre de l'avant les mêmes types de personnages, les mêmes tensions entre les personnages, les mêmes types d'histoires. Et ces choses-là s'établissent de manière assez insidieuse jusqu'à ce que le public ait l'impression que ça fait partie de l'ordre des choses. Donc, Doctor Who ne pourrait jamais être une femme parce que jusqu'à maintenant que Doctor Who était un homme, comme si ça existait. C'est ça, dans un continuum où le fait d'être un homme était intrinsèquement lié avec le personnage, comme si le personnage avait toujours existé et comme si c'était pas une production intellectuelle et artistique.
Et son archénémie était devenue une vilaine en plus, mais ça se pouvait toujours pas.
Ce phénomène-là, c'est parce qu'il y a eu justement, c'est un peu une mise en bouche puis une annonce à venir parce que comme le personnage du docteur dans Doctor Who devait toujours être un homme, mais personne n'avait vraiment posé la question. À un moment donné, quelqu'un a levé la question, ah, mais si le docteur était une femme? Puis là, éventuellement, on a tranquillement implanté l'idée dans le reboot.
Même dans le reboot, la première génération, des choses qu'il fait, c'est qu'il tente ses seins pour voir s'il y en a. Je veux dire, c'est quand même une manière assez claire de montrer, lui-même se pose la question assez rapidement, puis c'est là qu'il vérifie.
C'est ça, mais il fallait quand même que cette idée-là soit amenée tranquillement, puis même là, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont contre cette idée-là et qui, un peu comme l'explication de un Stormtrooper peut pas être noir, le docteur peut pas être une femme. OK, mais le docteur, c'est un extraterrestre avec deux cœurs qui se régénère à chaque... Pourquoi il pourrait pas...
Et quel magnifique docteur, là, je vous l'avais très bien montré aux Amazons, on ne fera pas votre émission qui est parfaite, mais c'est tellement un beau personnage qui fait une synthèse de tout ce avant en plus.
Ben, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, ce principe-là de transformer... comment on appelle ça exactement, Megan, de transformer les personnages d'hommes en femmes.
De gender swap.
C'est ça. Ça, c'est des phénomènes qui existent déjà dans la fanfiction. C'est des pratiques qui appartiennent aux fans, aux amateurs et aux amatrices de produits artistiques. Ce ne sont pas des pratiques qui existaient auparavant dans l'industrie. Donc, il y avait les pratiques de l'industrie qui font partie de l'hégémonie culturelle. Il y a toujours les mêmes types de personnages et tout. Et par rapport à ça, ben, il y avait des fans qui retconnent certains contenus, qui insèrent des contenus LGBT+, qui font du gender swapping. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que l'industrie s'approprie ces mécanismes-là pour transformer les œuvres culturelles. Puis à partir du moment où ça se fait et que ça reste plus dans la sphère, entre guillemets, privée des pratiques de fans, les spectateurs et les spectatrices sont pas contents tout de suite.
Ben non, c'est ça, parce qu'ils perdent le contrôle de leur bien-aimé franchise aussi.
Oui.
Puis il y a plusieurs manières justement de manifester son amour pour une franchise ou un univers de fiction. Puis souvent on voit qu'il y a tout ce backlash-là qui est pas content pour le docteur, pour que Jodie Whittaker soit le docteur, ou peu importe, là. Plein d'autres, ou que les Ghostbusters deviennent des filles.
Voilà.
Soudainement, c'est on utilise le vocabulaire des fans, justement, de la logique diégétique ou peu importe, pour justifier, mais au final, c'est juste pour justement réitérer un discours misogyne, par exemple.
Puis, je pense que ça passe mieux quand c'est fait avec comme un nouvel univers. Comme, je pense au film Moana. encore une fois, shit, les listes, c'est vraiment ma découverte de l'année sur YouTube. Là, je l'ai vraiment beaucoup écouté, puis à la Disney, donc c'est très le fun. Mais elle explique que Pocahontas et Moana ont à peu près le même schéma narratif. C'est quand même assez intéressant en soi. C'est vraiment les mêmes événements, genre quelqu'un qui se promène sur un bateau, qui doit sauver sa truc, qui doit récurser des trucs, etc., etc. Et elle explique que dans Pocahontas, il y avait plusieurs problèmes qu'on a eu par la suite, par exemple avec mon frère l'ours. Une manière, il y a des beaux chants, c'est super beau, mais ils ont genre été chercher, il me semble que c'était scandinave ou nouvelle-zélandais, genre des trucs qui n'avaient pas du tout rapport avec la culture amérindienne d'ici. Donc, elle montre justement que Moana a comme appris des erreurs passées pour faire quelque chose de beaucoup mieux. Et c'est sûr qu'il y a dû avoir du monde qui a fait « Oh non, c'est une femme, oh non, c'est problème, c'est comme c'est une autre, c'est une personne racisée, etc. » C'est une personne racisée, parce que je porte tellement pas attention à ça. Là,
c'est
mais
un personnage c'est, polynésien. Parce
que c'est ça, vient de la Polynésie. Donc c'est ça, il y a forcément dû avoir du monde qui ont eu des problèmes, mais ça rentrait pas dans leur cohérence de leur franchise jusqu'à maintenant, qui est un amour un peu obsessif, maladif, là, évidemment, mais je pense que ça passe mieux dans ces cas-là, évidemment, il y a toujours du monde
mais qui aussi, il y a aussi le fait que Moana est une princesse Disney, et c'est un schéma auquel on était déjà habitué.
Oui, c'est ça.
De
aussi.
La princesse Disney.
Tout à fait.
La femme qui va sauver son village, comme dans Pocahontas.
Voilà. Exactement. C'est de faire du nouveau avec de l'ancien, et ça passe bien parce que c'est le schéma narratif qu'on est habitué, on est confortable, mais en même temps, on peut corriger les erreurs.
Oui.
Et ça, je pense que ça dérange assez peu. Je pense que si on corrigerait même dans Belle la Bête, ça... Enfin, je sais pas. J'ai un peu peur de... Je suis pas dans la tête de ces personnes-là qui sont un peu étranges.
Comment on peut corriger la Belle... On enlève le syndrome de Stockholm.
On pourrait.
Ah, encore une fois, lisez les listes en vidéo qui explique que c'est pas tout à fait ça. C'est plus qu'on... c'est le réduire à ça diminue l'œuvre alors que ça n'est pas tout à fait un en plus. Comme quand on regarde vraiment la définition, ça n'est pas tout à fait un... C'est sûr qu'on peut l'analyser comme ça, mais c'est réduire l'œuvre. On peut l'analyser de plusieurs manières, mais c'est pas la meilleure lecture.
Non, mais j'aimais bien, à un moment donné, il y a eu comme une présentation PowerPoint qui circulait sur Internet pour dire que Belle a fait le mauvais choix parce qu'elle s'est mariée à un aristocrate, puis la Révolution française arrivait.
Oui,
j'ai tellement adoré ça, oui, c'était parfait.
Oui, puis c'est ça. Donc, elle aurait dû choisir Gaston, qui était un membre de la bourgeoisie montante, et qui, justement, qui allait pas se faire décapiter comme Belle et son mari.
Ben, c'est ce que j'aime de Gaston. Normalement, c'est justement un peu le héros, c'est un peu d'Artagnan, c'est un peu toutes ces personnes-là qui doivent justement chialer aussi. Donc, c'est un peu le jerk qui aime les... lors de l'univers actuel, et on le dépeint comme un méchant, alors que c'est pas quelqu'un qui a des pouvoirs diaboliques ou qui ressemble à une nazie un peu comme Scar, là, je veux dire. C'est juste le mauvais gars du village, le footballeur. Puis je veux pas repartir dans des stéréotypes non plus trop exagérés, là, mais c'est juste un peu le connard de service comme on a qui est une autre figure.
Bon, ben, il reste pas beaucoup de temps à l'émission, donc c'est sûr que là, je vais vous poser une dure question qui a pas de réponse, c'est sûr que, tu sais, on voit qu'il y a beaucoup, une grande partie de la production culturelle aujourd'hui avec les remakes, avec les franchises qui prennent une grande place dans le marché.
Oui.
On voit aussi une diminution de la part de nouveautés qui peut être proposée. Donc, les histoires originales, les histoires qui n'ont pas... Est-ce que vous pensez, compte tenu de cela, que justement ça prend trop grosse place? Est-ce que, par exemple, les remakes qui sont justifiés par la nostalgie ou les franchises prennent une trop grosse place dans l'espace médiatique et empêchent justement la possibilité de penser de nouveaux schémas narratifs ou de nouvelles histoires ou de nouveaux types de fiction? Ou au contraire, on pourrait peut-être essayer de transformer ça pour avoir quelque chose de différent mais avec du recyclé?
Ben maintenant, on peut parler de la dialectique de Hegel.
Merci, Catherine.
N'est-ce pas?
Non, plug Hegel.
En deux minutes, c'est ce que je voulais qu'on parle.
On peut plugger Hegel. Oui, c'est ça. Ben là, je vais faire de la publicité gratuite pour un podcast qui s'appelle Philosophize This, qui est disponible sur toutes les bonnes plateforme de podcast. Moi, je l'écoute sur Google. Et qui est un podcast de vulgarisation philosophique. Et en tant qu'élève qui avait une moyenne de 62% en philo au cégep, je trouve ça vraiment génial de pouvoir me réconcilier avec la philosophie 10 ans plus tard. C'est vraiment génial, tu sais. Mais donc, c'est ça. J'écoutais des podcasts sur Hegel cette semaine. Et oui, Hegel, lui, avait développé cette question-là, cette notion de la dialectique qui... concernait surtout, il me semble, le progrès scientifique et le progrès de la pensée humaine. Et ce qu'Hegel disait, en fait, c'est que les avancées scientifiques naissaient à partir du moment où il y avait une stagnation certaine dans le milieu de la pensée, qui créait une frustration et qui faisait exploser le noyau de la pensée scientifique pour que celui-ci puisse s'en aller complètement ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va arriver avec toute cette logique de reboot et de remake.
Ça rappelle un peu ce que Jean-Michel disait tantôt avec la phase 4 du MCU.
Oui, exactement. On est en train de passer ailleurs. Puis il y a toujours eu des modes dans l'histoire du cinéma. Je veux dire, dans les années, tu sais, à partir des années 30, on avait énormément de musicals. Éventuellement, ça s'est calmé. On a eu, à un moment donné, beaucoup, beaucoup de films de mafia et de motards. Ça s'est calmé, tu sais. Je veux dire, il y a toujours des modes comme ça qui finissent par justement stagner parce que le marché est trop saturé. Et à ce moment-là, ça éclate et ça repart dans une autre direction. Fait que je pense que cette question-là des remakes, des reboots, va finir par s'étouffer elle-même et qu'on va avoir le droit à une nouvelle ère du cinéma qui va peut-être être axée sur plus de contenu original ou peut-être simplement sur plus d'adaptation parce qu'on adapte constamment les mêmes choses et on réadapte les mêmes choses, les mêmes jeux vidéo, les mêmes livres, quand il y a énormément d'autres médiums potentiels qui pourraient être transposés au cinéma.
Ouais, ou même de réalimenter des univers qui existent déjà, mais ça, ça me fait penser à ce que Edgar Morin, un des grands théoriciens de la culture populaire française, disait
On est dans le name dropping, là.
Allez lire ça, c'est quand même intéressant, mais sur justement les industries culturelles, et lui, il appelle ça le paradoxe de l'invention standardisée. Donc, le fait de, si on veut intégrer la nouveauté, il va falloir toujours le faire dans un contexte familier. Et c'est ce que les industries culturelles demandent, c'est justement qu'on ait continuellement du familier parce que sinon les gens vont pas y aller. Si on n'est pas capable de faire un lien avec une œuvre qu'on connaît déjà ou s'il n'y a pas une vedette qu'on connaît déjà dans l'histoire, chance est forte que ton film ou ta série soit pas un succès.
Ben non, puis en plus, tu sais, on discute beaucoup de à quel point les industries sont en train de brimer puis de baïonner la liberté créative de tous les créateurs de justement du Marvel Universe et tout, mais
au final c'est notre faute.
Au final, c'est notre faute.
On va voir les films au cinéma, puis, c'est ça le problème.
Oui, exactement, on encourage ça.
Je boycotte toutes les live-action de Disney parce que je veux pas qu'ils continuent à faire ça. T'as entièrement raison, faire l'action-réaction. Mais c'est ce que je veux à tout prix éviter, c'est... Parce qu'ils en ont quand même lancé plein. C'est sûr, ça va s'essouffler, mais les super-héros, on les a quand même eu depuis à peu près 20 ans, puis ils sont pas tout à fait ça les essouffler. Donc, j'espère que ça durera pas 30 ans, s'il vous plaît, de me refaire tous vos films depuis les années comme 39. Là, j'ai déjà vu, j'ai beaucoup dit ça en général, mais j'ai pas d'intérêt pour comme... À la limite, si vous voulez faire la même chose, faites-le un peu comme Maleficent, où là, moins vous montrer le côté du méchant avec un message. Je préférais quand même ça, je veux dire, ou Star Wars épisode 8, pour moi, était suffisamment différent pour m'apporter quelque chose de bien, je veux dire. On parlait justement même des jeux vidéo. Le dernier The Legend of Zelda était excellent. Ça reprend quand même une figure.
Mais on a un peu éclaté les formes. On rentrera pas dans le débat de Zelda, là, mais c'est ça. La réécriture, c'est intéressant, mais des fois, tu parlais de Moana tantôt, André-Philippe. Moi, c'est personnellement un des films préférés comme de tous les temps. Puis c'est une histoire originale, même si ça reprend beaucoup Pocahontas, qui était un de mes films préférés quand j'étais enfant. Mais c'est ça, c'est une nouvelle histoire, c'est aussi comme on partage une nouvelle culture qu'on connaissait pas avant, puis c'était un succès. Fait que je pense qu'il y a aussi cette petite lueur d'espoir-là faire comme...
Oui, c'est ça, absolument. C'est juste que...
Faites confiance au public.
Exactement, faut faire confiance au public, puis c'est juste que cette question-là de est-ce qu'on est en train d'empêcher les artistes, de censurer les artistes dans leur création, mais la réponse c'est non, parce qu'on l'a toujours fait, mais il y a du contenu original qui réussit à percer quand même. Je veux dire, il y a toujours eu des balises, puis les œuvres qui ne respectent pas ces balises-là, ben, ne parviennent pas jusqu'à nous. C'est simple comme ça. Fait que cette censure-là, elle a toujours existé de toute manière, même si on en parle de plus en plus, puis ça veut pas dire qu'il y a pas des œuvres de qualité qui se créent malgré ça, malgré les paramètres qui sont mis en place, puis malgré justement cette hégémonie culturelle-là.
Quel mot de la fin. Mais merci beaucoup, Catherine. Merci, André-Philippe.
Merci.
Puis merci à vous, à la maison, de nous écouter. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau Pop en stock. J'ai bien hâte. Bye bye.
Tu as dit le monstre pendant un instant, je ne l'ai pas vu. C'est qui? Il n'y avait que toi et ta gentillesse et ton cœur perdu. Toi et mon chien sans laisse. Tu as dit le monstre perdant un instant. Je ne l'ai pas vu. C'est qu'il n'y avait que toi qui mangeais les restes de mes os reçus par les soins de ta maîtresse. Il a sorti le monstre sous le lit, le monstre. Il était là dedans, il était là dedans.